Au chapitre 33, à partir du verset 18, Moïse dit « Fais-moi voir ta gloire ». L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde. » L'Éternel dit « Tu ne pourras pas voir ma face, car un homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit « Voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Car ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. » Amen. Moïse demande, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Alors, il est surprenant de constater à quel point les hommes aiment voir, et je donne des prolongements, des points de suspension, de voir, et au lieu de croire. Parce que le plus important pour nous, c'est de croire. Amen. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, je pense à Thomas, Saint Thomas, l'incrédule, et qui avait dit alors qu'il n'était pas présent lorsque les autres, justement, étaient là, quand le Seigneur est ressuscité, quand il leur est apparu, mais qui a dit, « Moi, si je ne peux pas mettre mes doigts dans ses mains, dans son côté, je ne croirai pas. » Et quand le Seigneur est apparu, cette fois-ci, il était présent, qui lui a montré ses mains, et quand Thomas a vu les mains percées du Seigneur, eh bien, il s'est plongé tout simplement dans une adoration en disant « Mon Seigneur, mon Dieu !» C'est pas « Seigneur, attends que je touche d'abord. » Seigneur, je sais que tu es vivant. Amen. Et là, le Seigneur Jésus lui a gentiment dit, bien sûr, sur le ton du reproche, bien sûr, hein, « Tu crois parce que tu vois. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Amen. Heureux. Qui a vu le Seigneur physiquement ce matin? Levez la main. Personne? Moi non plus. Mais je crois. Donc ça veut dire que je fais partie des gens les plus heureux. C'est pas formidable? Les gens les plus heureux de la terre ou d'Arles, ils sont ici ce matin. Alléluia! Réjouis-toi, mon frère, ma sœur, de ce que tu as eu la révélation du Fils de Dieu, la révélation de l'amour de ton Seigneur. J'ai rencontré pas mal de chrétiens qui m'ont dit un jour, et je les comprends bien sûr, combien ils auraient aimé vivre justement du temps du Seigneur. De pouvoir le voir, le rencontrer, lui parler, rester dans sa présence. Ça doit être quelque chose, hein, croyez pas? Eh oui. Alors c'est vrai dans un sens, mais avez-vous remarqué que le Seigneur avait été avec eux pendant plus de 3 ans? Plus de 3 ans. Et au bout de ces 3 ans, malheureusement, ils n'avaient rien compris. Ils n'ont commencé à comprendre que lorsque, justement, ils n'ont plus vu le Seigneur. Montre-moi ta gloire. Fais-moi voir, Seigneur. Et le Seigneur te dit, mais il faut que tu croies. Tout d'abord, commence par croire que oui, c'est possible. Un jour, Philippe s'est adressé à Jésus, il lui a dit, « Seigneur, fais-nous voir le Père. » Encore une fois, ils veulent voir. Et le Seigneur a dû lui dire gentiment, mais là aussi avec un accent de reproche dans la voix, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe, mais celui m'a vu a vu le Père. » Alors arrête un peu. Réfléchis avant de parler. Tout pleinement en Jésus. Amen. Voyez-vous, certains veulent aller plus loin. Ils veulent voir plus loin. Il y avait même, une terrible implication dans les paroles de Philippe en disant « Fais-nous voir le Père et cela nous suffit ». Autrement dit, ou dit d'une autre manière, « Jésus, toi, tu ne nous suffis pas ». Vous comprenez ? Tu ne nous suffis pas. Il faut aller plus loin que ta personne. Alors, montre-nous le Père, oui. Quelqu'un a dit un jour, alors qu'on lui citait ce texte de Paul adressé aux Colossiens, ce texte qui dit simplement ceci, « Nous avons tout pleinement en Christ, comme je viens de le dire », il a répondu, « Eh bien moi, ça ne me suffit pas. On doit aller plus loin, faire des expériences avec le Père, faire des expériences avec le Saint-Esprit. » Comme s'il n'était pas écrit, justement, « Toute la plénitude de la divinité est en lui corporellement. » Amen. Colossiens 2:9, c'est-à-dire en Jésus. Avez-vous saisi que Moïse est tombé lui aussi dans la même erreur ou dans le même panneau, je ne sais pas comment dire, et quand il dit « Éternel, fais-nous voir ou fais-moi voir ta gloire ». En fait, sans le savoir, il demande quelque chose de particulier, il demande la mort. Eh oui, il demande la mort. Puisque Dieu va lui dire tout de suite après, ma face ne peut pas être vue. C'est-à-dire que l'homme ne peut pas voir ma face et vivre. Tu veux vraiment me voir ? Tu veux vraiment voir ma face ? Eh oui. Alors nous allons voir ensemble ce que Dieu va donner à Moïse en échange. Hein, parce que Dieu n'est pas en reste. Hein. Dieu est-il écrit, ne nous donne pas toujours déjà selon nos demandes. Il y a des fois, il reste silencieux. Ou alors, il dit, non, 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 tu ne l'auras pas, non, je ne te donnerai pas. Ah oui, mais il nous donne toujours selon ses richesses. C'est-à-dire qu'il nous donne, est-il écrit dans l'Épître aux Philippiens, pardon, au-delà, plus que ce que nous pouvons demander ou penser. Bien plus. Alors, verset 17, je lis que l'Éternel lui dit, « Je te connais par ton nom, Moïse. Je te connais par ton nom, Bernard. Marc, il te connaît par ton nom. » Je ne vais pas faire toute la salle, hein, parce qu'il y a des prénoms qui m'échappent. Mais il nous connaît individuellement, personnellement, par notre propre prénom. Jésus va rencontrer Zachée. Et cet homme, vous savez, qui était monté sur un sycomore, ou dans un sycomore, il voulait voir passer Jésus. Voilà que Jésus va lever la tête, et bien qu'il ne s'était jamais rencontré, Jésus l'a appelé par son nom, il lui a dit, « Zachée, à toi de descendre, il faut qu'aujourd'hui je loge ou je demeure chez toi. » Zachée. Il n'y avait que lui dans l'arbre, vous croyez ? Je ne pense pas. Mais il le connaissait par son nom. Alors Dieu nous voit, bien sûr, comme ses brebis, desquelles il a pu dire, « Je connais mes brebis et je les appelle toutes par leur nom. » Non pas par leur numéro, mais par leur nom. Je les appelle une à une par leur nom. Je les connais. Alors, premièrement, Moïse, je te connais par ton nom. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, elle est là. Dieu lui dit, Moïse, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Il y a comme un échange, vous voyez, un échange de connaissances. Je te connais par ton nom et maintenant, je me fais connaître à toi. Alors, bien sûr, ça nous parle d'une relation personnelle avec le Seigneur. Et ne vous privez pas de cette relation personnelle. Elle est indispensable. Amen. Est-ce que vous prenez plaisir, normalement on doit prendre plaisir, à voir par exemple parents vos enfants, enfants vos parents, grands-parents, les grands-parents, les petits-enfants, on prend plaisir à les voir. Oui ou non ? Oui, dites oui. Allez, faites-moi plaisir. Normalement, c'est ainsi. Hein? Donc, on prend plaisir. Et le Seigneur, quelque part, eh bien, lui aussi, il prend plaisir quand on vient se rencontrer avec lui. Il faut qu'il y ait cette relation personnelle avec Dieu. Connaître Dieu, mais le connaître vraiment. Parce que si je lis la parole de Dieu, et si j'examine un petit peu les choses, c'est de là que dépend la vie éternelle. Que je le connaisse, lui, le vrai Dieu. Amen. Alors, lorsque Moïse est allé trouver le pharaon d'Égypte pour qu'il laisse sortir le peuple de l'esclavage, bien sûr, le peuple d'Israël, il lui a répondu avec orgueil et suffisance, « L'Éternel, je ne connais pas. » Quoi ? Tu parles de qui ? L'Éternel ? Je ne connais pas, moi, l'Éternel. Et c'est ce qu'a dit le pharaon, bien sûr. Et nous savons que cette histoire s'est finie pour lui à la mer Rouge. Son armée décimée. Lui, il est revenu tout penaud. Tout s'est arrêté là. Alors, il nous faut connaître Dieu d'une façon personnelle. Le connaître comme son Dieu à soi. Le connaître, je dirais, comme David pouvait dire dans le psaume 23, « L'Éternel, c'est mon berger. » C'est mon berger, c'est celui qui veille sur moi. Il prend soin de moi. Il me garde, il me protège. Il éloigne toutes ces bêtes dangereuses. C'est mon berger. Est-ce que vous pouvez le dire vous aussi ? Alors remarquez qu'il n'a pas dit « L'Éternel, ouais, c'est un berger. » Non, il n'a pas dit ça. Ça aurait été vrai, bien sûr, hein. Il n'a pas dit l'Éternel, ouais, je sais, c'est mon père m'a pas, c'est son berger. Non, non. Il dit l'Éternel, c'est mon berger, à moi. C'est mon berger. Alors, il nous faut reconnaître, ou connaître plutôt le Seigneur comme son sauveur personnel, non pas comme le Dieu de nos parents, le Dieu de notre Église, le Dieu de notre pasteur, le Dieu des anciens de l'Église. Mais il faut le connaître comme notre sauveur personnel. Amen. Il est à moi. Amen. Soyez jaloux. Oui, le Seigneur va en aimer d'autres, mais il vous aime, vous. Il va vous donner à vous des chances qu'il ne donnera pas à l'autre. Même s'il est tout près de vous. Parce que des fois, ça peut se passer dans le couple. Mais le Seigneur va donner à l'un et pas à l'autre. Et il sait pourquoi. On en parlait tout à l'heure. Hein. Alors, un, je te connais par ton nom. Deux, je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Et en troisième, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Mes amis, les bontés de l'Éternel. Waouh ! Alors, c'est un sujet qui, je pense, nous prendrait beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Ça nous prendrait des heures, bien sûr. Et il y a ce que nous savons des bontés de Dieu, bien sûr. Par exemple, dans le domaine physique, je vois les bontés de l'Éternel. Amen. Je suis bien, pas mal, je suis bien dans ma peau. Physiquement, ça va aussi. Je mange à ma faim, je suis vêtu, j'ai un toit, je ne suis pas à la rue, ma santé n'est pas si mauvaise que ça. Merci pour tes bontés, Seigneur. Vous pensez le remercier ? Important. Alors tout cela, ce sont les bontés de l'Éternel. Mais qu'est-ce que les bontés de l'Éternel dans le domaine physique à côté des bontés de l'Éternel dans le domaine spirituel ? Ah là là ! Eh oui ! J'ai parlé du vêtement, mais avez-vous pensé à ce vêtement de justice ? J'ai été justifié par le sang de l'agneau. Amen. Cette robe dont le Seigneur nous a revêtus de sa perfection, il est parfait en tout point. Et il me dit de tendre à sa ressemblance. Alléluia, il y a du boulot. Alors quand je parle de la nourriture, il est aussi question de la nourriture de l'âme. Merci pour ta parole, Seigneur. Ah, qu'elle est précieuse. Quand je parle des demeures éternelles, c'est les maisons du Père qu'il est allé nous préparer. Et là aussi, ce sont les bontés spirituelles du Seigneur. Il nous prépare une place. Formidable. Il n'y aura pas de caution à payer. D'accord, je me serais déjà acquitté ici-bas. Alléluia. Il n'y aura pas de recherche à faire, d'aller voir une agence immobilière. Non. Le patron là-haut, il nous ouvrira les portes. Il nous accueillera. Entre bon et fidèle serviteur. Alléluia. Alors, que de choses qui nous ont été épargnées également. Et ça aussi, ça fait partie de la bonté de Dieu. Tant qu'il y a la bonté de Dieu dont nous sommes conscients, celle dont nous sommes inconscients. Et c'est là que, eh bien, quelque part, il nous faut bénir le Seigneur aussi. Quand il nous dit non. Ça ? Non. Vous comprenez ? Eh oui, il nous épargne ainsi. On aura conscience beaucoup plus tard, mais certainement des souffrances. Il nous épargne des faillites. Eh oui. Et puis il y a tout ce que nous ignorons des bontés de l'Éternel et qu'il nous révélera un jour, s'il le veut. Amen. Alors donc trois choses. Je te connais par ton nom. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et au verset 22, il dit : je te mettrai dans un creux de rocher. Alors quand on pense à la vie de Moïse, on sait à quel point, eh bien, des tempêtes ont soufflé dans sa vie. Et là, vous ne pouvez pas dire il n'y a qu'à moi que ça arrive. Parce qu'il y a Moïse, mais il y en a d'autres dans la parole de Dieu qui ont vécu, mais alors des tempêtes terribles, qui sont passées par des moments, je ne veux pas parler de Job, parce que bon, Job, on sait, hein, voilà. On dit le pauvre Job, mais il était riche. Il a été pauvre, puis de nouveau, il a été riche, encore plus. Alors, pour Moïse, alors, malgré toutes les tempêtes qui ont soufflé, je dirais, dans sa vie, miracle, il a tenu le choc. Je dis miracle. Eh oui, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il était dans ce rocher de protection, tout simplement, du Seigneur. Comme nous, il faut se le rappeler ce matin, nous sommes dans la main du Seigneur. Il est dit que nul nous ravira de sa main, personne ne pourra nous ravir de sa main. Alléluia ! Attention ! Moi, je peux sortir de la main du Seigneur. Vous comprenez ? Moi, je peux quelque part prendre ma liberté et sortir, faire ce que j'ai envie. Mais là, c'est dommage. Puisque je vais me priver de la protection qui m'est promise. Et oui. Il dit, je garde mes brebis dans ma main, personne ne les ravira de ma main. Donc il veut te garder dans sa main précieuse. Et toi, il faut que tu restes dans la main du Seigneur. Et cette intimité avec lui, et ce contact avec lui. Connais le Seigneur. Amen. Alors oui, je te mettrai dans un creux de rocher. Il dit au verset 21, je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Alors il y a dans ce geste, je dirais, deux sens. Il y a d'abord le sens naturel de protéger. Les protections du Seigneur dont je viens de parler, ou ce à quoi bien nous avons pu échapper les uns et les autres. Mais il y a également un autre sens. Et c'est celui sur lequel je vais m'étendre maintenant. Alors le deuxième sens, c'est de lui cacher quelque chose pour que Moïse ne voit pas. Moïse qui dit tout simplement « Fais-moi voir ». Et Dieu qui met sa main pour qu'il ne voit pas. Paradoxe ? Bizarre. Alors, lorsqu'un enfant est confronté à une scène d'horreur, quel est le réflexe des parents ? Nous sommes un jour arrivés dans mon village qui s'appelle Mazan. C'est un très beau village, Mazan. Et à l'entrée du village, je vois les gens qui me faisaient des signes. Il y avait une foule. Pourquoi ils veulent que je m'arrête ? Et moi, j'ai continué. Donc, les gens sont écartés. J'ai continué. J'ai commencé à avancer, à passer entre eux. Et puis, tout d'un coup, je jette un coup d'œil à gauche. Hop. J'ai dépassé ce lieu. Et je dis à Marie-Paul, évite que les enfants regardent. Une voiture était venue faucher deux personnes sur le trottoir. Le gars était sous traitement. Il s'est endormi au volant de sa voiture. Il a fauché deux personnes. Normalement, on a chacun deux jambes. Là, j'ai trouvé plus qu'une seule jambe. Elles étaient entremêlées les unes entre les autres. Là-dedans, il y avait ma tante. Mais mon premier réflexe a été « Dis aux enfants de ne pas regarder. Empêche-les. » J'ai avancé exprès pour ne pas être au niveau. Vous voyez, notre réflexe, c'est cela. C'est tout simplement de les protéger pour qu'ils ne soient pas traumatisés, qu'ils ne gardent pas un souvenir douloureux. Donc on leur met les mains sur les yeux, on leur tourne la tête pour que justement ils ne voient pas. Et bien ce geste, on le retrouve, je dirais, dans cette main du Seigneur qui s'étend sur Moïse pour que justement ils ne voient pas. Dans le livre de Deutéronome, chapitre 29, verset 29, cherche pas, je ne te l'ai pas donné d'ailleurs, il est écrit « Les choses révélées sont pour vous, pour vos enfants, les choses cachées sont à l'Éternel. » Et dans la Bible, on voit des pages entières où les choses sont lues, vues, répétées, dites, des pages même qui peuvent nous faire nous paraître un peu fastidieuses, répétitives, fastidieuses à lire, bien sûr. Voilà, c'est comme ça. Et puis Dieu a voulu que ce soit ainsi. Et quand il est question de certaines choses, par exemple de l'occultisme, eh bien, on aimerait, la curiosité nous pousserait justement à savoir un peu plus. Eh bien, Dieu nous demande de ne pas aller y voir, de ne pas chercher. Il nous dit que c'est mauvais. Il nous dit que ça nous détruira. Il nous dit de ne pas y aller et de laisser tomber ces choses. Et si on a été tenté par cela, de lui dire, Seigneur, pardonne-moi. J'allais désobéir. Amen. Alors si l'Éternel nous cache certaines choses, sachons-le, c'est pour notre bien. Car il y a toujours un danger de connaître et de voir déjà avant le temps fixé par Dieu. Dieu a des temps et des moments. Quelquefois on dit, tiens, c'est le maître de l'horloge. Oui, Dieu c'est le maître des horloges. Amen. Je pense à nos premiers parents dans le jardin d'Éden. Et ils étaient dans un bonheur dont on ne peut pas imaginer ce qu'était leur bonheur. Et oui, magnifique, hein? Dieu leur avait révélé ce qu'ils avaient besoin justement de savoir, mais il leur avait caché autre chose. Il leur avait caché, entre autres, la connaissance du bien et du mal. Il leur avait caché cela. Alors, je ne pense pas que Dieu leur aurait caché éternellement la connaissance du bien et du mal. Je crois qu'avec la maturité, quand ils auraient été prêts, Dieu l'aurait montré. Et le temps passant, justement, il leur aurait révélé le bien et le mal, sans danger. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi Dieu, à des moments, il vous dit, non, c'est pas le moment. Ça, pas encore. Eh oui. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelque part, si je prends cette image, ils sont allés soulever la main de Dieu pour aller voir. Ils sont allés manger du fruit défendu, bien sûr. Alors, comme l'a dit quelqu'un, ils ont connu le bien sans plus pouvoir le faire. Et ils ont connu le mal sans plus pouvoir y résister. C'est une vérité, hein? Eh oui. Alors, la même chose se passe avec Moïse. Souvenez-vous qu'il a demandé, « Éternel, fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu qui dit non. Voilà que les siècles passent. Et quand nous arrivons dans le Nouveau Testament, nous suivons le Seigneur sur ce qui est appelé le mont Tabor, la montagne de la transfiguration. Il est changé en gloire. Et parmi les deux personnes qui sont là, qui y a-t-il? Il y a Élie. Accompagné de qui? Et de Moïse. Eh oui, justement. Ce Moïse auquel il a dit « Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre ». Mais maintenant, au temps opportun, non seulement il voit cette gloire, mais maintenant, il y participe. Il y est. Alléluia. Maintenant, il est au centre de cette gloire. Il est à son contact. Alléluia. Imaginez qu'un papillon naisse en plein mois de janvier, février, vous savez, quand il fait froid, quand le givre est là le matin, quand il y a du mistral qui transporte dans la vallée du Rhône un froid, aïe, aïe, aïe. Alors, parce qu'il fait chaud dans votre maison, qu'est-ce qui se passe et que les conditions sont réunies, voilà que la chenille se transforme en papillon. Elle devient papillon. Mais dans la maison, à part se nourrir des fleurs artificielles en plastique ou en tissu, il n'y a rien pour qu'il puisse se nourrir. Alors vous réfléchissez, vous dites, mais si je le laisse là, il va mourir. Et il ne va pas pouvoir se nourrir. Et il n'y a rien. Alors vous ouvrez la fenêtre et vous le mettez dehors. Problème, c'est qu'il n'est pas fait pour aller dehors au mois de janvier ou février par la bise qui souffle. Donc il va faire quelques centaines de mètres et puis, pouf, il va mourir. Alors qu'est-ce qui se passe là? Eh bien ça veut dire que d'abord, il est né trop tôt. Il y avait un moment pour lui, il y a un moment choisi par la nature, un moment choisi par le Créateur qui a fait la nature. C'était, et normalement c'est autour du mois de mai qu'on voit les papillons arriver, mais le mois de janvier, février c'est un peu tôt. Vous voyez, donc ça ne va pas bien loin. Voyez-vous, dans notre vie, c'est un peu pareil. Il y a le désir de voir, de connaître, dont Dieu fait du bien de nous préserver de certaines choses. Eh oui. Quand le peuple d'Israël est entré, ou était sur le point d'entrer dans la terre promise, voilà qu'ils ont demandé à ce que 12 espions, 12 éclaireurs, appelez-les comme vous voulez, mais bon, moi je dis espions, ils sont envoyés sur cette terre pour voir ce qu'il en était. Et pour voir, encore une fois, vous voyez, je veux voir, montre-moi. Dieu leur avait dit que c'était un pays où coule le lait et le miel. Mais croire, c'est tellement plus difficile. On veut voir. Alors, ils sont allés voir. Dieu leur a donné la permission, parce qu'ils ont tellement insisté, certainement. Oui. Car c'est eux qui ont voulu voir. Alors, ils sont partis. Ils sont allés explorer le pays. Et au bout de 40 jours, voilà qu'ils reviennent éreintés. Fourbu, fatigué, effrayé aussi, on va en parler. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Écoutez, c'est un pays où coule le lait et le miel. S'ils avaient cru, ils ne seraient pas venus fatigués. Ils n'auraient pas dépensé toute cette énergie. Ils se seraient épargnés toute cette peine. Il leur aurait suffi simplement de croire ce que Dieu leur disait, mais non. Là aussi, ils ont voulu voir, ils ont vu. Seulement, il y a une chose justement que Dieu ne leur avait pas montré ou révélé. C'est un pays où coule le miel, c'est un pays béni. La suite, vous le verrez plus tard. Non, on veut tout savoir. On veut aller voir. Alors certes, c'était un pays où coulait le miel. Le miel, bien sûr, mais Dieu leur avait caché quelque chose, c'est-à-dire qu'il avait comme mis sa main dessus. Il avait couvert cela, voyez un petit peu. Parce que ce n'était pas le moment, ils n'étaient pas prêts. Alors ils sont revenus en disant, « Ouais, mais il n'y a pas que ça. Si vous saviez, et on va vous le dire, vous serez avertis comme ça, il y a des géants. Il y a des géants et ils se sont mis à décrier le pays. Et savez-vous ce qu'ils ont dit? Ils sont grands, mais tellement grands. Nous étions à leurs yeux comme des sauterelles. Vous comprenez? Et oui. Et si on garde les proportions, quelque part, ils ont dit, ils avaient des têtes grosses comme les boules de l'Atonium de Bruxelles. Vous l'avez vu, cet Atonium? Moi, je l'ai vu. Et Marie-Paul, on l'a vu. C'est énorme. Il y a des restaurants dedans. Hein? Ils étaient grands, pouvait-il dire, comme la tour Eiffel. Le premier étage, on ne va pas exagérer trop. Comme le premier étage de la tour Eiffel. C'est-à-dire que, entre-temps, je me demande s'ils ne sont pas, pendant les 40 jours, s'ils n'ont pas poussé un petit peu jusqu'à Marseille. Où ils ont tout simplement bien attrapé ce qu'on appelle le don de l'exagération. On est quelquefois comme ça, nous aussi. Croyez pas? On grossit les choses. On les amplifie. Alors, voyez-vous, ça leur a coûté quoi ? Ben, ça leur a coûté cher. Ils voulaient voir au lieu de croire. Il leur aurait simplement fallu de croire. Amen. Et nous savons que pour ces 40 jours passés, eh bien, le châtiment a été déré. Combien ? 40 par jour, 40 ans. 40 ans dans le désert. Parce qu'il ne faut pas oublier que nos yeux, les yeux de notre tête, les yeux de notre corps, de notre chair, vont toujours mal interpréter ce qu'ils voient. Il y a nos états d'humeur. Et oui, il y a nos capacités. Alors, si je compare avec la foi, elle, elle va se fier à l'interprétation de Dieu qui ne peut être qu'exacte. C'est ça. Dieu le dit. Et voilà comment il nous faut fonctionner. Un homme raconte, je me souviens quand j'étais petit, ma mère brodait, et entre autres, il y a une broderie qui s'appuyait sur le dos d'un fauteuil, vous voyez un petit peu comme ça. Et c'était un fond beige, et il y avait également un coq gaulois à l'endroit, c'était très beau. Mais ce qui m'a frappé, c'est qu'un jour, j'ai regardé à l'envers. J'ai regardé à l'envers de la broderie, et l'envers de la broderie, eh bien, ça ne ressemblait à rien. Sinon, un tableau de Picasso. Vous voyez ? Alors, il a dit, ou il dit simplement ceci, on voyait des bouts de laine, des bouts de fil, qui passaient dans tous les sens. En fait, ça ressemblait à rien. C'était l'envers. Vous voyez ? Voyez-vous un petit peu, notre vie, c'est comme cela. Notre vie, Dieu la brode, si nous laissons faire, bien sûr, hein. Il a, lui, la tapisserie de notre vie à l'endroit. D'accord ? Lui, c'est l'endroit. Il brode d'en haut, il file, tac, 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 il tisse, il brode notre vie. Formidable. Amen. Et quand nous regardons notre vie en bas, nous disons parfois, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je suis en train de faire ? Qu'est-ce que je suis en train de vivre ? Par quel moment je passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oh, je m'en sortirai jamais. En plus, ça n'a pas de sens. Pourquoi est-ce que je vis cela? Puis tout est contrariété, tout est contre-temps. Je tourne en rond, ça n'avance pas. Je ne m'en sors pas. Alors, c'est vrai que notre vie, nous ne la voyons, nous, que d'en bas. Nous la voyons à l'envers. Mais un jour, Dieu, lorsqu'il va nous rappeler à lui, à ce moment-là, il va nous amener au-dessus de la broderie. D'accord ? Au-dessus. Nous allons la voir à l'endroit, et croyez-moi, comme nous la verrons du bon côté, de ce côté, nous verrons déjà si nous l'avons laissé broder notre vie. Amen. Si nous l'avons laissé travailler en nous, œuvrer. Amen. Et croyez-moi, il n'en aura pas fait un tableau de Picasso, mais il en aura fait une œuvre de maître. Amen. Parce que lui ne se trompe pas. Amen. Lui ne se trompera jamais. Alléluia. Alors, je vais récapituler un peu avant de conclure. Moïse dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Le Seigneur lui dit, l'homme ne peut me voir et vivre. Il va lui donner 4 à 5 choses. Il va lui dire, je te connais par ton nom. Moïse, je me fais connaître et je te fais connaître le nom de l'Éternel. Moïse, je fais passer devant toi toute ma bonté. Moïse, je te mettrai dans le creux d'un rocher. Et puis surtout, Moïse, je te couvrirai de ma main. Alors, permettez une dernière chose. Supposons que Moïse ait pu voir la gloire de Dieu et ne soit pas mort. Quand n'aurait-il retenu ou gardé ? Je pense qu'il aurait eu peut-être comme un coup d'art dans les yeux. Je pense. Parce que autour de Dieu, il y avait un éclat. Regardez Moïse quand il est monté à la montagne. Quand il est revenu, se voilait le visage. Et Josué n'a pas pu voir le visage de Moïse autrement que sous un voile. Parce que la gloire de l'Éternel reflétait sur lui. Alors, un éblouissement, puis après quoi ? Eh bien, c'est parfois comme certaines heures de notre vie. Elle nous impressionne, un beau message, on l'entend, on se fait du bien, on se réjouit. Mais un quart d'heure plus tard, qu'est-ce qu'il en reste? Alors, ce que Dieu nous a donné, et ce que Dieu lui a donné à Moïse, est-ce que ça ne valait pas mieux qu'une impression fugitive qui ne laisse que peu de traces? Eh oui. Alors il dit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je te connais par ton nom. Je te fais connaître le nom de l'Éternel. Je te couvrirai de ma main. Et je te mettrai dans le creux de rocher. Et c'est là finalement les choses que Dieu lui donnait en échange de ce qu'il avait demandé. Je le rappelle, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Eh oui. Alors en attendant, parce que c'est pareil pour nous, on a envie de voir la gloire de l'Éternel. Qui n'a pas envie? Qui a envie? Levez la main. Bien sûr qu'on a tous envie. Hein. Alors en attendant, nous devons vivre comment? Non pas par la vue, mais par la foi. Amen. Mais le jour viendra où le Seigneur nous enlèvera sa rencontre et la foi, à ce moment-là, elle se changera en vue. On verra à ce moment-là, oui. Et là, nous ne croirons plus, nous verrons. Nous serons avec lui, nous verrons la gloire qu'il y a auprès de lui, même déjà avant que le monde soit monde ou qu'il existe. Et là, nous partagerons éternellement ces choses avec lui. Mais en attendant, notre part sur cette terre, c'est de croire sa parole. De croire Dieu sur parole. Amen. Quand le Seigneur Jésus a dit à Pierre, « Pierre, j'ai ton filet sur le côté, là. » Pierre, il a dit, « Écoute, j'ai rien pris de la nuit. On n'a rien pris. Hein, je ne suis pas seul à te le dire. Hein, on n'a rien pris. » Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Et voyez, si nous partons de ce principe, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais Dieu me dit de le faire. Je n'ai pas les moyens, je ne suis pas capable, mais je veux le faire. Eh bien, Dieu va nous permettre, là, excusez-moi, de voir une partie de la gloire de Dieu. Puisque Dieu va nous montrer toute sa puissance. Amen. Pas capable? Mais lui, il est capable. Amen. C'est important, hein? Alors, dites-lui, Seigneur, moi, je te crois. J'ai mis ma main dans ta main. Je veux la garder. Je ne veux pas que tu me lâches, Seigneur. Mais il a dit, je ne te lâcherai pas. On ne pourra pas te ravir de ma main. Amen. Alors, laisse-moi te guider. Laisse-moi te conduire. Alors, il est vrai que nous sommes souvent pris dans les brumes, les nuages. Mais c'est là justement qu'il faut tendre la main plus haut, au-dessus des nuages, au-dessus de la brume. Le ciel est clair. Alléluia. Et le Seigneur bien nous saisira parce qu'il voit tout. Il voit tout. Il sait tout. Notre avenir, c'est dans son livre à lui. Mais il nous demande de marcher par la foi. Amen. Et là, il nous faut y aller. Alors que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse parce que nous en avons besoin. Il est celui qui veut nous encourager. Et si ce matin, peut-être, tu es dans l'expectative en train de dire, mais quand? Et puis d'abord, est-ce que ça va arriver? Est-ce que Dieu m'entend? Oui. Il n'a pas d'appareil, lui. Parce qu'il n'en a pas besoin. Comprenez? Eh oui. Il sait tout. Des fois, on veut lui expliquer, mais il sait, va au but. Il y a une équipe qui dit, va droit au but. Le slogan de cette équipe-là, vous la connaissez? Non? Je vous dis pas. Pas de pub, pas de pub. Allez, mais en tout cas, ayons foi, confiance. Marche par la foi. T'inquiète pas, il enverra un an si ton pied va heurter contre une pierre. Pour ne pas que tu te ramasses par terre. D'accord? Un jour, un frère, il montait au ski dans les Alpes. Il partait donc de Carpentras. Et puis, il nous raconte ce qui lui est arrivé en route. Il venait nous rejoindre. Il s'est retrouvé au sommet, vous savez, il y a des cols à passer, et ils sont venus du côté de Nyons, tout ça, là-bas, le coin. Donc, ils montent, et tout d'un coup, il y a eu le soleil, son pare-brise n'était pas si propre que ça, c'est là qu'il a compris, qu'il n'était pas propre du tout. Et donc, il a été aveuglé. Il n'a rien vu. Et puis, tout d'un coup, il a senti que c'était bizarre. Il a arrêté la voiture, il est sorti de la voiture, il était en contrebas d'un ravin. Authentique. C'est quelqu'un de la famille de Jean-René Pérez. Philippe. Il a dit, j'ai senti qu'il y avait quelque chose d'anormal. Je ne voyais plus rien, mais je ne savais pas ce qui m'arrivait. Et il a été comporté. D'accord ? Alors, c'est des expériences que nous pouvons faire si nous avons foi, confiance en lui. Amen. Nettoyez votre pare-brise. Hein. Faut être sérieux hein, dans l'affaire. Mais lui, voilà. Et puis le Seigneur, vous voyez, il sait nous garder. Il sait nous préserver. On était dans un état un peu bizarre. Il venait de faire une drôle d'expérience. Amen. Parce que quand tu sors de la voiture, que tu réalises où tu es, tu dis, mais c'était là-haut que j'étais. Oh là 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 là. Là, on frémit, on est blanc, on est un peu livide, on a la chair de poule. Ben, on dit, Seigneur, merci. Merci. Tu m'as gardé. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci pour ta parole. Merci pour tes bienfaits. Merci parce que, comme tu le dis, Seigneur, et tu le répètes, en toi, nous avons tout pleinement. Rien ne manque à ceux qui te craignent. Merci de trouver, Seigneur, tout simplement parmi ton peuple, des gens de confiance, des gens de foi, qui ont choisi tout simplement de croire en toi. Comme Abraham, espérant contre toute espérance, il a cru et il a vu le fruit, la récompense de sa foi, la bénédiction que tu lui as accordée, cette descendance qu'il y a derrière. Merci, mon Seigneur, au nom de Jésus et à toi la gloire. Amen.